ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Qui nous écoutez, à vous parents, futurs parents, grands-parents, oncles, tantes, voisins, passants, à vous qui un jour croiserez peut-être un enfant en détresse, peut-être même le vôtre. Nous sommes les visages, les cœurs, les mains que vous pourriez un jour croiser dans l'un des pires moments de votre vie, au sein du service de réanimation pédiatrique et néonatale de l'hôpital des enfants de Toulouse. Un service dont le simple nom fait peur, un lieu que l'on redoute et où jamais personne ne voudrait rentrer. Mais pour nous, ce lieu est un engagement, une vocation, une promesse faite aux enfants et à leurs familles. Nous sommes infirmiers, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes, médecins. Nous sommes les mains, les regards, les voix que vous entendrez au milieu de l'inquiétude. Nous sommes ceux qui vous soutiennent quand vous vous effondrez. Et aujourd'hui, nous vous parlons parce que nous n'avons plus le choix. Parce que malgré les réunions, les alertes, la direction reste sourde, muette, immobile. Alors nous prenons la parole. Pour nous. Pour vous, pour tous les enfants, pour tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ou qui ne le pourront simplement plus jamais. Ce combat, nous le menons pour Tom, Ludovic, Inaya, Lia, Mohamed, Jules, Marius, Léna. Des enfants qui ont un prénom, une histoire, un visage. Pas des chiffres, pas des lignes sur un tableur. Pourtant, aujourd'hui, notre service est vu comme un tableau Excel. Des taux d'occupation à atteindre, des soignants à déplacer, à épuiser, à remplacer. Un lit vide devient un lit fermé. Une soignante devient une ligne mobile qu'on envoie ailleurs. Un contrat précaire devient un pion variable au gré des besoins. Mais que devient l'enfant dans tout ça? Que devient votre enfant si demain il a besoin de nous et qu'il n'y a personne pour l'accueillir? Non par manque de volonté, mais parce que les quotas sont déjà atteints. Parce que ces codes 1107, 1108, froids et administratifs dictent désormais qui peut entrer. Accepteriez-vous qu'on vous dise qu'il n'y a plus assez de soignants pour assurer sa sécurité? Nous, jamais. Nous avons toujours cette volonté d'être là, de bien faire, d'aimer notre métier malgré tout et d'offrir à chacun un accompagnement de qualité. Soigner, ce n'est pas juste appliquer un protocole. C'est un engagement émotionnel, humain, profond. C'est faire abstraction de nos propres douleurs pour accueillir celles des familles. C'est inventer un monde rassurant dans un environnement fait de machines et de silence. C'est savoir pleurer. Mais toujours après. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes humains, et notre humanité est exploitée. Notre silence est devenu une habitude, notre dévouement une faiblesse. Souhaiteriez-vous que ceux qui prennent soin de votre enfant soient épuisés, précarisés, sous pression et dans l'inquiétude constante de ne plus pouvoir faire leur travail dignement? Nous voulons simplement pouvoir exercer notre métier. Pas dans le luxe, pas dans le confort, mais dans des conditions humaines, sûres, stables. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous vous alertons, pas par choix, par nécessité. Parce que nous refusons de cautionner un système qui maltraite les soignants et met en danger les enfants. Alors à vous qui nous écoutez, nous demandons une seule chose. Soutenez-nous, car nous ne pouvons plus compter sur ceux qui nous dirigent. Notre combat, c'est de dire enfin stop. Stop au manque de personnel, stop aux fermetures de lits, stop aux contrats précaires, stop aux arrêts maladie pour burn-out, stop aux soignants à bout, stop aux discussions sans réponse, stop à la maltraitance institutionnelle. La réanimation pédiatrique et néonatale, c'est une équipe solidaire, passionnée, profondément engagée, une équipe qui veut travailler dignement et en sécurité. Ce combat, c'est pour eux, pour nous, pour vous, pour la vie.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, nous accueillons Lucie Lafont, auxiliaire de puériculture à l'hôpital des enfants de Toulouse, de l'area pédiatrique de Purpan. Face à l'épuisement du personnel, aux fermetures de lits et à la précarité qui désagrège le secteur, l'équipe de réanimation pédiatrique et néonatale a organisé une manifestation le 21 mai puis le 5 juin dernier pour alerter Arte sur les conditions de travail de plus en plus dégradées. Et elle dénonce une gestion purement comptable qui oublie l'humain et les enfants qu'ils ont en charge. Lucie Lafont va nous expliquer pourquoi il faut plus de moyens, plus de stabilité et des conditions dignes pour protéger à la fois les soignants-soignantes et les patients-patientes. Voilà, merci d'être là, bienvenue Mag.
Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis auxiliaire de puériculture dans le service de réanimation pédiatrique depuis maintenant 6 ans.
Tu peux, pour commencer, décrire ce que signifie pour toi de travailler dans un service qui accueille à la fois des grands prématurés et également des adolescents, adolescentes en urgence vitale. Qu'est-ce que c'est concrètement en fait une journée ordinaire pour toi ?
Alors une journée ordinaire, comme on le dit, on accueille donc des patients qui sont des grands prémas, atteints d'une pathologie due à leur prématurité ou une détresse à la naissance. Et on va du coup jusqu'à l'accueil des adolescents jusqu'à 18 ans. Donc les 18 ans, c'est essentiellement des enfants qui sont suivis depuis des années au sein de l'hôpital et qui du coup...
que vous connaissez peut-être pour la plupart, c'est un suivi long,
voilà.
C'est ça.
Voilà, okay. Souvent c'est ceux-là, ceux qui ont des découvertes ou des grandes pathologies ou des accidents à l'âge de 17-18 ans sont plutôt orientés vers les adultes. Mm-hmm. Mais ceux qu'on accueille dans notre service, ce sont des enfants chroniques qu'on appelle et qui sont suivis déjà donc depuis un certain nombre de temps avec les médecins référencés pédiatriques.
C'est-à-dire, dans l'organisation du service, vous savez qu'il faudra prendre en charge à très long terme, puisqu'on parle de dizaines d'années, là, certains patients, patientes, quoi.
Oui, entre guillemets, des enfants qui sont, par exemple, qu'on accueille dans notre service pour une découverte de leucémie, de cancer, de diabète par exemple, on sait que ce sera des enfants qui vont rester longtemps au sein de l'hôpital, alors pas forcément sur une hospitalisation longue dès le début, mais qui vont faire des allers-retours sur l'hôpital. Néanmoins, ce ne sont pas forcément des enfants qui vont revenir dans notre service de réanimation pédiatrique, ça peut être des enfants qui vont être accueillis à leur entrée pour une situation d'urgence.
Donc ça fait vraiment les deux, ouais.
Voilà, et après ça peut être lors d'une dégradation à un moment donné de leur pathologie.
Donc j'imagine que dans l'organisation d'un service, il faut prendre en compte cette double réalité, quoi, à la fois les urgences et un temps beaucoup plus long, parce que ça va justifier effectivement des chambres à disposition, du matériel, du personnel...
Mia Pauline a été hospitalisée à cause d'une insuffisance respiratoire. Prise en charge par les soignants du service réanimation pédiatrique, la fillette est sortie d'affaire. Mais pour sa maman, cela a été une véritable épreuve.
Ça choque, c'est stressant, c'est inquiétant, parce que la réa, c'est un univers un peu à part dans l'hôpital. Déjà, le mot réa, réanimation... Donc c'est lourd, c'est très anxiogène, c'est un univers anxiogène et du coup lorsqu'on voit son enfant comme ça en détresse, ben, on a peur, on a très peur.
Vanessa aussi a peur. Sa fille Naya a dû être opérée d'urgence de l'estomac. Stressée, elle avait avalé ses cheveux. Mais il y a eu des complications après l'intervention. Depuis, l'adolescente est entre la vie et la mort, tous les jours. Sa maman est à son chevet.
Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Et après, on pense positif pour Inaya parce qu'elle a un gros caractère qui se bat. Elle s'est fait déjà opérer plusieurs d'autres choses et elle s'en est toujours sortie. Donc, on lui donne les choses positives pour qu'elle s'en sorte parce qu'on sait qu'elle va s'en sortir.
On a des patients effectivement qui peuvent rester très longtemps. On a des patients. Alors, on est quand même essentiellement dans des situations d'urgence où les patients ne restent pas forcément des mois. On va libérer des chambres pour qu'ils soient suivis dans leur hospitalisation dans des services classiques entre guillemets. Pour que nous, on reste ce soit que de l'hospitalisation d'urgence. Pour pallier leur dégradation à ce moment-là. Mais ça peut quand même être des hospitalisations longues comme des prématurés qui ont du mal à, à se sevrer de leur ventilation. Nous, on a un service où il n'y a que notre service qui peut suppléer la ventilation d'un enfant qui ne peut pas respirer seul. S'il a besoin essentiellement de lunettes à oxygène, ça peut être dans un autre service, mais dès qu'on dépasse les lunettes à oxygène et qu'on passe dans de la ventilation qu'on appelle invasive, donc que ce soit, soit un enfant qui est intubé et qui est sous assistance d'un respirateur, ou une ventilation avec... qu'on appelle non-invasive, mais qui reste voilà, de la VNI, qu'on appelle dans notre jargon, qui est dirigée par notre respirateur, et les respirateurs ne sont qu'en réa. Donc tant que les enfants sont sous ces dispositifs-là, ils ne peuvent pas être transférés dans un autre service. Donc après, c'est chaque patient prend le temps qu'il faut pour pouvoir pallier à tout ça et pouvoir être transféré pour la suite de sa prise en charge dans un autre service.
Maëlys a 21 mois. À la crèche, fiévreuse, elle a fait des convulsions. Le nourrisson a immédiatement été pris en charge par les urgences pédiatriques.
Là, on a 39. Vous allez pouvoir enlever le body, madame ?
C'est très stressant, mais après, on est rassuré parce que surtout, on sait qu'il y a quand même le médical qui est là. Et l'hôpital de Purpan, elle connaît déjà, donc on sait qu'on est pris entre de bonnes mains.
Enlevez le petit masque. Un pchit et on va compter jusqu'à 10.
Pour les infirmières du service, le rythme est très soutenu.
Vous comptez 5 clapets qui sera pour faire le point. D'accord ?
Bonjour madame, dites-moi qu'est-ce qui se passe ?
C'est pour la petite, elle fait mal, on s'est cogné contre la porte.
Les urgences pédiatriques de Toulouse, c'est 65 000 passages par an, soit 180 à 300 personnes par jour, selon les périodes de l'année. En sous-effectif, le service fonctionne à flux tendu.
C'est un cri d'alerte que vous lancez aujourd'hui ?
Oui, c'est un cri d'alerte, clairement. C'est un épuisement professionnel qui est en train de s'installer déjà depuis des mois. Tout le monde tire sur la corde. On a tous envie de faire notre travail. On vient avec la boule au ventre de réussir à faire tout ce qu'on veut faire dans notre journée. Et on part avec la boule au ventre parce qu'on sent qu'on a fait un travail mal fait. Et en fait, ça, on ne veut plus le faire.
On est au CHU de Toulouse. Depuis le 21 mai, des infirmières et des auxiliaires de puériculture du service de réanimation pédiatrique et néonatale sont en grève.
Comme tu es en train de le dire, un service de réa pédiatrique, c'est la présence nécessaire de centaines de professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, reconnus pour leur expertise. Quel est le rôle précis que toi t'occupes au sein d'une équipe pluridisciplinaire, et également comment se répartissent les responsabilités entre puéricultrices, on va dire infirmiers, infirmières, médecins
On va dire que donc on est une centaine de professionnels, mais répartis au niveau des auxiliaires de puériculture aide-soignante et des infirmières, infirmiers, puéricultrices. On est une petite centaine entre paramédicales qu'on appelle, et après il y a les médecins et les internes, en plus du coup tous les autres intervenants, que ce soit les kinés, les éducatrices de jeunes enfants, tout ça. On est donc 24 heures sur 24 sur le service de réanimation pédiatrique. On est un service qu'on appelle normé, qu'on entend beaucoup dans tous les termes. Ce qui veut dire normé, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de professionnels pour un minimum de patients, c'est-à-dire que chaque patient qui est dans les chambres, il faut qu'il y ait un nombre de personnel adapté à ce nombre de patients. S'il n'y a pas ce personnel-là, on est obligé de transférer des enfants dans d'autres services ou d'autres hôpitaux.
Pour la sécurité, c'est ça,
voilà.
Des enfants.
Par exemple, une infirmière ne peut avoir à charge que 2 patients dans notre service, et une auxiliaire de puériculture ne peut avoir à charge que 4 patients. Okay. On travaille en 12 heures.
Le personnel soignant s'investit beaucoup pour apporter du bien-être à ses enfants. C'est l'une des missions de cette auxiliaire puéricultrice.
Là, c'est vraiment des soins de détente et de bien-être pour se réapproprier, je dirais, son corps et le toucher, pour reprendre un toucher agréable. C'est vraiment la petite bulle de douceur et de bien-être.
Les enfants passent beaucoup de temps ici pendant leur traitement, et on sait que un enfant qui est content, qui est de bonne humeur, qui est en bonne forme physique, tolérera beaucoup mieux les traitements et fera moins d'effets secondaires. Donc on met effectivement l'accent beaucoup sur cette prise en charge, vraiment à tous les niveaux.
Et après, on a besoin de reconnaissance donc, de nos postes transverses, de la fidélisation de nos contrats précaires.
qu'en fait, on a besoin de garder les compétences de notre service. Donc, toutes les personnes qu'on forme, on a besoin qu'ils restent dans notre service, en fait, et pas qu'ils soient envoyés ailleurs.
On arrive le matin entre soit 7h, soit 7h30, jusqu'à donc 19h ou 19h30. Idem pour la nuit, on commence à 19h ou 19h30 jusqu'à 7h ou 7h30, selon les plannings. Une autre infirmière qui est essentiellement référente et qui est hors soins, et qui gère donc la pharmacie, des commandes des traitements pour les patients, qui gère la gestion du matériel, les commandes, qui est en lien aussi avec les médecins essentiellement, et qui pose aussi chez les tout-petits en pédiatrie. On peut pas simplement poser juste des VVP comme donc des cathéters veineux qu'on nous pose, par exemple quand on arrive aux urgences, on nous pose un petit cathéter et on nous pose le traitement dont on a besoin. Dans un service comme le nôtre, on est obligé d'avoir des voies qui durent longtemps, parce que ce sont des voies qui peuvent être à risque infectieux, donc avec des conséquences potentiellement graves pour certains patients. Et donc ces cathéters sont très précis et c'est un soin qui se fait de manière stérile. Ces cathéters, ce qu'on appelle les KTECC, sont posés donc avec cette infirmière référente et un médecin. Donc ces deux personnes sont en stérile, c'est-à-dire avec un équipement particulier, avec un respect d'hygiène essentiel au niveau de la chambre. C'est fait donc dans la chambre du patient et ça peut durer plusieurs heures.
Ouais, c'est ce que j'imagine. Ce protocole-là prend du temps, donc de toute façon.
Exactement.
Il vous faut du temps. Vous ne pouvez pas non plus bâcler certaines tâches.
Voilà. Il y a certaines tâches du coup qui sont essentielles. Donc effectivement, ces personnes-là sont essentielles pour exercer ces tâches-là. Et après, au niveau des médecins, les médecins, il y a plusieurs médecins qui sont en garde. Donc nous, on a un service où on a la chance qu'on n'a pas un seul médecin. On a des médecins qui sont constamment dans notre service. Et donc toute la journée, on a plusieurs médecins avec des internes. Donc environ 6, voire des fois 7 internes et les médecins. On a 3 médecins qui sont en charge des patients pour les visites, tout ça, plus un médecin en plus pour faire donc tous ces soins qu'on appelle en aide. Voilà. Et après, donc ça tourne sur les semaines, ils s'alternent, parce qu'après, en parallèle, ils ont leurs consultations avec leurs patients, des gestions autres, administratives, tout ça. Et voilà. Et après, sur la nuit, donc on a toujours un médecin avec un interne qui reste constamment. Et le week-end, ça s'alterne, ils sont un peu moins nombreux, mais c'est pareil. Donc c'est jour et nuit, et les médecins peuvent faire du coup jusqu'à 24 heures de garde. Mais nous, on excelle, on va dire, jamais les 12 heures. Et on fait 4 jours semaine maximum séparés. On ne peut jamais faire 4 jours d'affilée, mais voilà, on va dire que c'est entre 2 et 4 par semaine.
Cette petite fille de 6 mois est née avec une malformation cardiaque, un trou entre les deux ventricules. Elle va subir une lourde opération à cœur ouvert. Ses équipes chirurgicales sont les seules dans toute l'Occitanie à pratiquer ces opérations, parfois sur des nourrissons de quelques heures. L'intervention de cette petite fille s'est bien déroulée. Elle passera au moins 48 heures en réanimation et plusieurs jours dans le service de cardiologie.
On a vu nos conditions un peu s'effondrer et la charge de travail qui est en constante augmentation. Ça se répercute beaucoup sur l'organisation du travail et la sécurité des enfants et la qualité des soins.
Vous avez des astreintes
Non.
Non, il n'y a pas de...
Non, on n'a pas d'astreinte. Alors, c'est un peu rigolo parce que justement, notre problématique, c'est que souvent, on a donc du manque de personnel. Et donc, sur la journée, ce manque de personnel est un peu pallié par ce qu'on appelle le pool, et qui viennent donc renforcer les équipes au besoin. Elles ont un planning fixe et elles ne savent juste pas le service dans lequel elles vont être affectées la veille. Donc ça, sur la journée, c'est OK, ça passe à peu près, à part vraiment quand il n'y a pas assez de pool, ils font appel à ce qu'on appelle des heures sup. Donc on a une plateforme en ligne où tous les personnels du CHU de Toulouse, ce n'est pas que l'hôpital des enfants, c'est le CHU de Toulouse qui a accès à cette plateforme et on peut postuler, entre guillemets, à ces heures sup pour venir renforcer dans ce service. Effectivement, du coup, on est payé en conséquence pour ces heures sup. Mais là, du coup, c'est donc des personnes un peu de partout qui peuvent venir. Et la nuit, donc comme il n'y a pas de pool de remplacement,
Le pool ne fonctionne pas la nuit, ouais.
Voilà, c'est un peu notre grosse problématique et qu'on aimerait développer avec toutes nos revendications pour qu'on puisse du coup avoir des personnes qui puissent, des personnes de l'hôpital, des enfants qui ont l'habitude de venir dans nos services, qui peuvent venir aussi la nuit. Et comme on n'a pas ça et qu'on n'arrive pas à se suffire à nous-mêmes sur les nuits, en ce moment on est obligé de faire appel toutes les nuits à des heures sup, pour, essentiellement pour les auxiliaires de puériculture, mais c'est aussi valable pour les infirmières et infirmières, mais un peu moins, on va dire. Ils ont un peu moins de personnes extérieures pour les infirmières, mais les auxiliaires de puériculture, on a beaucoup de personnes extérieures, donc c'est-à-dire ça peut être des personnes qui sont d'autres services de l'hôpital,
ouais.
Qui sont déjà venues ponctuellement ou non dans notre service. Et aussi, on a toutes les personnes qui peuvent être ailleurs, donc ça peut être des... Vu que on a l'équivalence de aide-soignante, donc les aides-soignantes peuvent faire notre travail. Et donc, ça peut être des aides-soignantes. On a eu de l'oncopole, de Rangueil, de la gériatrie.
C'est un fichier commun avec tous les hôpitaux de Toulouse ou...
C'est le CHU de Toulouse. Donc, ça peut être l'hôpital de l'Arrêt, de Rangueil, de Purpan, des urgences adultes. De l'oncopole, il y a une partie qui est CHU de Toulouse. Donc, pareil, ces personnes-là peuvent venir.
Pour pallier des carences en personnel, fait venir de l'oncopole par exemple, on imagine qu'elle va faire des soins similaires, alors qu'il faut découvrir tout un service.
C'est exactement la problématique qu'on soulève et qu'on demande d'avoir une auxiliaire de puériculture en plus jour et nuit dans notre service, donc qui serait embauchée dans le service de Réa. On fait appel donc à ces fameuses heures sup, et ces fameuses heures sup sont des fois délivrées quand il y a vraiment aucun recours, elles ont été parfois délivrées à des personnes même intérimaires, c'est-à-dire extérieures à l'hôpital, et qui n'avaient aucune notion de la pédiatrie, même des fois, et même aucune notion de la réanimation. C'était un service qui est quand même hyper spécifique, avec des pathologies complètement variées, et un service d'urgence, il faut savoir réagir en urgence.
Si tu arrives la nuit, en fait, pas une équipe qui va t'intégrer progressivement au fonctionnement du service,
exactement.
J'imagine, même intérimaire. Où est le matériel
C'est exactement ça, et c'est ça qu'on soulève vraiment avec notre mouvement, c'est qu'en fait, on nous envoie des personnes qui, les pauvres, sont bienveillantes en se disant qu'elles viennent aider ce service qui est en souffrance et qui est en sous-effectif. Mais en fait, des fois, on a expliqué à notre direction que ce n'est pas forcément une aide de nous apporter quelqu'un qui est extérieur au service, parce que ce sont des personnes qui, effectivement, ne connaissent pas, ne serait-ce les locaux, le matériel, qui connaissent aucunement l'organisation de notre service. Et nous, en tant que personnel du service, on va... essayer de l'alléger, entre guillemets. Donc on va lui donner par exemple des patients qui sont un peu moins lourds, où il y a juste à l'endormir la nuit, lui donner peut-être le biberon, faire des surveillances classiques, des prises de constant, de température, changer la couche, enfin voilà, des choses où sur une nuit ça peut largement être fait par d'autres personnes. Mais nous, en conséquence, on s'occupe des patients les plus lourds constamment.
Ouais, en fait, l'aide devient une charge mentale, quoi.
Exactement. C'était exactement ça. Et c'est malheureux parce que, justement, c'est des personnes qui viennent nous aider et qu'on aimerait pouvoir former. Mmh. Et en fait, ce sont des personnes qui sont complètement lâchées, alors que c'est un service où on a besoin de former et de doubler, qu'on appelle pendant des semaines pour que les collègues... puissent travailler en sécurité. Et encore, il faudrait presque les doubler un peu plus longtemps, parce que 2 semaines ou 3 semaines, c'est pas assez pour connaître tout.
On veut partir de notre service en se disant « j'ai fait du bon travail ».
Donc écoute, on reste toujours sur le service. Donc vous dites que vous aimez ce service parce que vous y êtes profondément attaché. C'est pour ça que vous décidez aujourd'hui de prendre la parole. Est-ce que tu as peut-être un souvenir à nous faire partager, un moment qui éclaire aussi le choix que tu as fait de faire ce métier ?
Moi, ce métier, je veux le faire depuis que je suis toute petite. Travail auprès des enfants, c'est quelque chose... qui me tient à cœur depuis longtemps, et travaille à l'hôpital encore plus pour lier la santé avec la pédiatrie. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour ce service, parce que, en fait, on a tous les jours, on va dire, des remerciements. On a de nombreux courriers, des mails, des cartes, des cadeaux, des chocolats, des bonbons. On a des parents qui sont dans une période de souffrance et d'attente dans notre service qui est important, avec leurs enfants qui sont forcément dans des situations critiques. Et ce sont des parents qui arrivent malgré tout à prendre le temps de nous remercier et de nous offrir des choses pour nous remercier pour notre travail qu'on fait au quotidien, alors que nous, on le fait par cœur et par dévouement. Et en fait, pour ça, même les familles qui ont traversé des périodes affreuses et essentiellement lors de décès de leurs enfants, on a quasiment systématiquement un courrier en retour à distance de remerciement. Et ça, vraiment, quand on se dit qu'on a un remerciement d'un parent qui a perdu son enfant, on se dit, mais vraiment, on est essentiel à ce service, en fait. Ces parents-là, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on soit à 100% pour eux et pas à 50% pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on veut continuer de se battre. Et puis, en plus, quand on voit aussi des patients qui reviennent des années après, qui ont été sous assistance cardiaque pendant des mois et des mois, et qu'en fait on les voit courir sur un stade, c'est exceptionnel. Et de même, ceux qui viennent nous revoir dans les services, qui parlent, qui marchent, tout ça, ça fait que augmenter notre envie de continuer. On a même des parents qui nous ont fait des énormes dons financiers de par leurs associations, de par leur statut. Voilà, là, dernièrement, on a vu une maman qui veut faire don suite à une soirée. Tout ce qui va être récolté, elle va le verser sur la cagnotte qu'on a ouverte en ligne, par exemple, parce que c'est une maman qui a eu son enfant dans notre service et pour elle, la cause est importante. Donc voilà, toutes ces choses-là nous montrent encore plus que il faut continuer, quoi.
Pour tout ce que vous avez fait depuis près de 8 ans, pour Super Maëlle, mais pour moi aussi, coûte que coûte. Aussi dur que ça pouvait être pour chacun. Malgré votre charge de travail, malgré votre fatigue, malgré les tensions, jamais je n'ai senti que Maëlle et nous étaient de trop, ni moi qui avais besoin de soutien. On a besoin de vous, eux ont besoin de vous. La direction se doit de se réveiller et d'agir. C'est une chose d'être derrière un ordinateur, c'en est toute une autre d'être sur le terrain et d'annoncer des mauvaises nouvelles, de masser, d'accompagner les familles. Mais qui est là pour eux? Qui les soutient? Merci d'être là, ne lâchez rien, on vous aime et on vous soutient.
Spices are